des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Acteur de changement, il est tourné vers l'innovation. Il ne se contente jamais de peu. Il pousse l'information dans les moindres détails. Guillaume Lavoie.
Bonjour, heureux de vous retrouver à Cube Radio. Merci d'être avec nous. Beaucoup de choses, évidemment. Puis la semaine prochaine, ce sera bien sûr la FIFA au Qatar. On va avoir l'occasion de creuser cette chose-là amplement. Mais nous venons d'apprendre que Jean Lapointe, 86 ans, est décédé, vient tout juste de décéder. Cette icône, ce géant de la culture québécoise, que ce soit en chanson, dans les films, dans l'humour. Et il y avait, ça a forcé presque une réflexion. En entendant la nouvelle, évidemment, j'étais pris d'une certaine tristesse, d'une certaine réflexion, parce que je n'ai pas connu, moi, ce qui était le cœur ou le premier pilier de la carrière de Jean Lapointe, l'humour, les cabarets, les Géroulas, mais plutôt en trois étapes à travers la vie. Puis je vous la partage de manière chronologique. D'abord, quand j'étais tout jeune enfant, tout petit, je me souviens, lorsqu'on allait voir les grands-parents, lorsqu'on se déplaçait en voiture, il y avait dans la voiture familiale un lecteur, et ça fera sourire certains, de cassettes 8 pistes. Et il y en avait une qui était les grands succès de Jean Lapointe. Et encore aujourd'hui, j'ai en mémoire, j'ai dans la tête, dans les oreilles, de ces chansons qui sont pour moi les plus magnifiques, là, « Le balayeur heureux »,« Cyrano », Pleurir, d'ailleurs un titre qui décrit bien la vie de Jean Lapointe. Et ces chansons ont en commun cette espèce de moment de prendre une pause, faire un bilan de sa vie, de prendre acte de ces petites choses qui font que la vie mérite d'être vécue. Des petits moments d'amour, de rire, de peine aussi, d'accomplissement, d'amitié. Et de revisiter ça et de voir avec les années qui s'accumulent combien ces petits souvenirs-là gagnent en valeur. D'ailleurs, je pense que c'est une strophe ou un bout dans la chanson Cyrano où il dit « Plus les saisons s'entassent, plus on a le goût du printemps. Et plus on vieillit, plus on voit peut-être la richesse ou la grandeur de cette petite phrase de rien. » La deuxième phase de ma découverte de Jean Lapointe, c'est son talent d'humoriste, un talent né pour le timing, le sens du punch, et notamment ses spectacles avec Daniel Lemire, entre autres au Festival Juste pour rire, où il fait ce pianiste de bar absolument génial avec Daniel Lemire. Et là, on sent que rares sont les gens capables d'être autant dans le tragique, dans le senti, dans le profond, et autant en même temps une capacité d'un sens né de l'humour, du timing, de raisonner, de faire rire les gens, de faire communion avec les gens, à la fois dans la peine comme dans le rire. Et le troisième pilier, peut-être, de cette découverte de la carrière de Jean Lapointe, c'est comme acteur, que j'ai d'abord connu dans ce film grandiose de Michel Brault, « Les ordres », 1974, qui parle de l'horreur, de l'odieux, de la loi des mesures de guerre, de ce qu'on a fait vivre aux gens que l'on a emprisonnés sans aucune raison, sans mandat, sans procédure. Et Jean Lapointe va interpréter un personnage central, mais surtout, il va interpréter, alors qu'il est en prison, son personnage, et il va chanter a cappella, une chanson magnifique, « La complainte à mon frère ». Il faut écouter cette chanson-là. On l'a vu après ça dans un film un peu plus d'action, tension, drame, avec Michel Côté dans le tunnel. Mais là où je pense que la carrière cinématographique de Jean Lapointe est la plus marquante, la plus profonde, pas juste pour moi, mais pour l'ensemble des Québécois qui veulent s'intéresser à notre histoire, c'est lorsqu'il a, dans la série Duplessis de Denis Arcand, en 1978, incarné le rôle titre, le rôle de Maurice Duplessis, où il est magnifique, où il est exceptionnel, et il réussit à dépasser la caricature du personnage, à dépasser une approche un peu machinéenne de Duplessis, soit un dieu, soit un diable. Il va l'interpréter dans toutes les gammes des émotions, de la grandeur et des péchés du personnage, et il nous laisse, à travers l'incarnation de Maurice Duplessis dans cette fameuse série, une fenêtre magnifique pour redécouvrir une histoire que l'on résume beaucoup trop et très mal, une espèce d'approche de « il n'y avait rien avant la Révolution tranquille et tout après ». Alors finalement, en partageant ça avec vous, je me disais, cette espèce de vieille marotte, et je ne sais pas d'où elle vient, hein, montrer du beau à un enfant, il en restera toujours quelque chose. Et je me disais, d'abord, merci maman d'avoir fait jouer ça dans la voiture. Et je me disais, mais maintenant que moi, je suis aussi un parent, qu'est-ce que je fais écouter dans la voiture qui tombera dans les oreilles de mes enfants? Et qu'est-ce qu'eux pourront avoir comme souvenir dans plusieurs années?
Si je t'envoie ces quelques fleurs, accepte-les, viennent du cœur. Ce ne sont pas des fleurs fanées.
Comme ça, on part pour le grand voyage.
Eh oui.
Ah, toujours les mêmes qui partent, hein?
Ben oui.
Grand vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde. Analyse le monde dans tous ses états.
C'est pas véritablement une nouvelle brûlante. Notre système de santé déborde. Même à l'époque, il y a déjà une génération et demi de ça, Yvon Deschamps disait à la blague, dans au département de l'accouchement, il y avait une mère avec ses deux jumeaux et je leur ai dit au médecin, j'ai dit à la mère, faites-vous-en pas, le médecin devrait arriver à temps pour y vacciner pour l'école. Mais justement, comment pourrait-on voir en dehors du cadre pour donner un peu d'oxygène, pour donner plus de services dans notre système de santé? Mais là, il y a des gens qui disent, nous, on serait capable de contribuer à ça de manière différente avec des soins souvent de première ligne ou de plus petite intervention. Et entre autres, c'est on pourrait appeler ça cette armée bien disposée sur le territoire québécois de pharmaciens et de pharmaciennes. Alors, pour en parler, Mme Diane Lamar, pharmacienne elle-même et professeure à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Lamar.
Bonjour, M. Lavoie. Ça va bien?
Très bien. Merci d'être avec nous. Alors, expliquez-nous comment il serait envisageable qu'on puisse mobiliser les pharmaciens et pharmaciennes un peu partout pour aider ou prêter main forte à la tâche?
Ben, je dirais que c'est déjà amorcé. Il y a eu l'adoption de deux lois au cours des dernières années, la loi conduite 41 et la loi 31, qui permettent aux pharmaciens, entre autres, de prescrire certains médicaments, de modifier, d'ajuster certaines doses de médicaments et de traiter certaines conditions mineures. Et donc ça, c'est déjà en vigueur et c'est peut-être encore un peu méconnu. Je pense que ça serait peut-être l'occasion de faire une campagne d'information. Il y a certaines publicités qu'on avait à la télévision, mais...
Ben, commençons maintenant. Quels sont les fameux services que les pharmaciens et pharmaciennes ont maintenant le droit légalement d'offrir qu'ils n'avaient pas avant?
Ben, en fait, déjà la prolongation des ordonnances. Donc, ils peuvent prolonger. Vos ordonnances ne sont plus renouvelables. Le pharmacien peut prolonger, mais pour une période maximale d'un an. Si votre ordonnance de départ était d'un an ou de deux ans, lui peut prolonger pour un an. Si l'ordonnance était seulement de trois mois, il peut prolonger seulement pour la durée originale de l'ordonnance. Mais déjà, ça donne un peu de répit lorsque on ne réussit pas à avoir un rendez-vous avec son médecin.
Oui, puis on peut maintenant imaginer qu'il n'y a rien de plus choquant que de soi-même contribuer à engorger le système pour des actes qui peuvent être accomplis franchement par d'autres.
Exactement. Il reste que parfois, le pharmacien peut aussi devoir refuser de prolonger. Si le diabète du patient n'est pas bien contrôlé, si le patient a des effets indésirables particuliers ou une dégradation de sa condition, il est possible que le pharmacien dise « bon, ben là, ça fait 10 fois que je vous renouvelle au lieu de 12, mais là, il faut vraiment que vous voyez le médecin. » Et ça, il faut aussi que ce soit respecté parce que c'est une question de protection des patients. Mais oui, ça aide énormément. Là, ça donne un peu d'air dans le système, je vous dirais. Il y a aussi dans le cas où on sait, il y en a de plus en plus, des pénuries de médicaments. Et là, le pharmacien peut maintenant modifier le médicament, avertir le médecin par la suite. Mais avant, il devait absolument rejoindre le médecin avant. Ça, déjà, ça compliquait beaucoup les choses. Il y a d'autres situations où le pharmacien peut vraiment prescrire des par exemple, l'infection urinaire chez une femme qui en aurait déjà eu une dans les dernières années, si c'est dans les 5 dernières années. Donc, parce que c'est vraiment une cause de consultation fréquente. Et quand on a pas accès à un médecin ou à un rendez-vous ou en clinique en sans rendez-vous, c'est tellement incommodant pour les femmes qu'elles se rendent à l'urgence de l'hôpital. Donc, c'est une façon d'éviter le recours à l'urgence. Si on en a déjà fait une, on peut aller voir le pharmacien et il va réactiver l'ordonnance. Il va pouvoir prescrire le traitement pour l'infection urinaire chez les femmes. Même chose pour les hémorroïdes, pour un feu sauvage, pour une vaginite, pour certaines irritations, des dermatites.
Donc,
sur
des,
la peau.
Des choses
alors,
de base. Madame Lamarre, oui. Une question, et là-dessus, je vous la pose, mais animée d'une curiosité sincère. Ça fait depuis probablement la création du système de santé tel qu'on le connaît lui-même qu'on cherche toujours une nouvelle première ligne. Il y a eu la pulsion, à un moment donné, c'était les CLSC, qui n'étaient pas mauvais en soi comme approche. Après ça, on essayait, et la raison est toujours d'engorger les urgences. C'est pas nouveau, ça. En quoi cette approche-là, elle est nouvelle? Et est-ce qu'on a trouvé ici là, une solution qui dormait dans nos cartons depuis très longtemps, ou on peut imaginer que ça va en prendre d'autres après, là?
Oui, ben je vous dirais que la notion de désengorger les urgences, c'est comme ça qu'on l'aperçoit actuellement, mais un système de santé qui serait en bonne santé ferait en sorte que les gens consulteraient le meilleur professionnel au bon moment pour la meilleure chose. Et c'est pas vrai que d'aller à l'urgence d'un hôpital est le bon endroit pour se rendre. Dans beaucoup de cas, on le voit, là, ce qu'on appelle les P4, P5, des gens qui d'ailleurs sont pris à attendre 18, 20 heures à l'urgence, parce que ce ne sont pas des cas d'urgence hospitalière. Mais il n'y a pas d'autres portes qui s'ouvrent pour eux dans la communauté, dans la société. Alors, il faut effectivement se pencher, et je pense qu'on est en train là, de décloisonner. Moi, quand j'étais présidente de l'Ordre des pharmaciens, j'ai fait beaucoup, beaucoup de démarches pour décloisonner les professions. L'Office des professions, ça a été constitué là, il y a 40 ans, puis je pense qu'on a au Québec d'excellentes formations des professionnels de la santé, que ce soit les physiothérapeutes, les psychologues, les infirmières, les pharmaciens, les médecins. Et donc, il faut que chacun fasse le mieux possible, le plus possible dans ses compétences en aidant les gens. Problème de santé mentale, je pense que les psychologues avec 7 ans d'université peuvent définitivement s'occuper beaucoup plus, là, entre autres dans les milieux scolaires, des enfants qui ont les troubles de déficit de l'attention ou d'autres troubles. Ils peuvent poser le diagnostic, les accompagner. Même chose pour les infirmières qui travaillent en milieu scolaire. Alors,
permettez-moi une question, et encore là, elle est animée d'une curiosité sincère. Une des choses que l'on souhaitait obtenir avec le concept de médecin de famille, c'est parce que la santé, c'est holistique, ça prend un suivi. Tu peux avoir mal quelque part, mais c'est dû à autre chose. On avait l'impression que, en tout cas la logique, c'est que si je suis suivi par la même personne pour l'ensemble de mes enjeux de santé au général, on aura une meilleure compréhension des causes qui sont à la source de mon état de santé. Est-ce que là, on va s'éparpiller à travers d'autres, une kyrielle de professionnels différents, puis personne, quelque part, aura une idée générale de mon état de santé? Est-ce que c'est un risque, ça?
Ben, en fait, il y a des éléments où effectivement, la continuité avec un médecin de famille est essentielle. Il n'y a aucun autre professionnel qui va pouvoir remplacer ça. Mais il y a plusieurs conditions. Quand je vous parle d'infection urinaire, par exemple, chez la femme, si on en fait une par 3 ans, c'est pas nécessaire de vraiment voir le médecin pour ça. Mais si on en fait 3 dans un an, là, c'est prévu que le pharmacien doit référer la femme à un médecin pour qu'il y ait une évaluation plus approfondie. Alors, c'est un peu cette différence entre un événement qui se passe et qui est circonscrit dans le temps, un feu sauvage, par exemple. Les gens reconnaissent ça quand ils en ont fait un il y a 2 ans. Et dans un contexte où on manque de toute évidence de disponibilité au niveau des médecins de famille, pour toutes sortes de raisons, il y a eu beaucoup de retraites, on a mal, d'après moi, anticipé le besoin d'augmenter les cohortes en médecine. Et donc là, on est vraiment dans une situation qui est particulière. Là. Je pense qu'on est... il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui vivent ça, mais au Québec, là, on est vraiment en situation de crise. 1 million de personnes qui attendent sur un guichet d'accès.
Ouais.
Quand j'étais députée, on était à 400-500 000, et là, d'être à 1 million, c'est dramatique.
On n'a pas l'impression qu'on s'améliore, mais dites-moi, souvent, le cœur de notre système de santé, et c'est un peu un pacte avec le diable, là, c'est cette espèce de compromis de un côté rémunération à l'acte, et de l'autre, qui est l'extension des autres professionnels, c'est les champs de pratique réservés. Et en gros, ce que vous nous décrivez, c'est que maintenant, il y a des éléments de pratique qui appartenaient ou qui étaient de manière sacro-sainte réservée à des médecins,
ouais,
qui maintenant peuvent être pratiqués par d'autres. J'imagine que du côté des médecins, que ce soit les fédérations professionnelles ou même l'ordre, on ne devait pas célébrer la chose. Est-ce que vous avez finalement gagné un ordre contre l'autre? Et est-ce que vous, après ça, vous êtes à risque de voir certaines de vos pratiques à vous transférées à d'autres pour vous soulager? Là, vous allez faire du travail de plus. Demain matin, vous n'êtes pas plus nombreux, là.
Mais en fait, il y a des gains d'efficacité. Il y a des gains d'efficience pour le patient et pour les professionnels à être capables de coordonner ou gérer complètement un épisode de soins. Et je veux juste terminer sur l'autre question. Il reste qu'on a quand même maintenant, ce qu'on n'avait pas il y a 30 ou 40 ans, des instruments de partage d'informations. Le dossier Santé Québec, par exemple. Maintenant, les pharmaciens ont accès aux données de laboratoire. Alors, si vous avez un médicament pour votre glande thyroïde, vous avez eu un dosage, le pharmacien peut même represcrire un dosage, il va avoir accès à ces informations-là. Alors qu'avant, on travaillait tous à l'aveugle un peu, on n'avait pas ce partage d'informations-là. Et donc, pour ce qui est de la résistance entre les professionnels, moi, je peux dire que j'en ai eu énormément il y a une dizaine d'années, là, quand j'ai fait cette démarche pour élargir le rôle des pharmaciens, alors que dans toutes les autres provinces canadiennes, on avait déjà commencé à faire ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a rattrapé le temps perdu et actuellement, les pharmaciens du Québec ont vraiment tout un éventail d'actes professionnels, de nouvelles activités. Et l'an dernier, en 2021, si on ajoute la vaccination, et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup aussi d'implications, mais la vaccination était aussi un acte que le pharmacien ne pouvait pas poser avant, eh bien, on est à 4 millions de nouvelles activités qui ont été faites. Et dans ça, il n'y a pas juste la vaccination. Il y a des ajustements de doses, des modifications de traitements.
On comprend bien que vous en faites plus qu'avant. Dites-moi, là, et...
Mais on est ouvert à ce que tout le monde en fasse plus.
Et là, je comprends que vous allez en faire plus. Vous allez en faire plus. Est-ce qu'il y a, qu'on pourrait prendre en note, là, des choses de plus que les pharmaciens présentement n'ont pas le droit de faire et pourraient faire ou qu'ils font ailleurs dans d'autres juridictions? Avez-vous des exemples?
Il y en a peu. Il y en a vraiment, vraiment peu maintenant parce que on a eu deux lois, le projet de loi 41 et le projet de loi 31. On a vraiment élargi beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui resterait, c'est certaines façons de prescrire. Mais vous voyez, on a ajouté récemment la possibilité pour le pharmacien de prescrire quand quelqu'un a le zona. Parce que c'est un problème qui doit être traité dans les 72 heures pour que le traitement soit efficace. Donc, le pharmacien a été formé maintenant pour reconnaître les lésions de zona et pouvoir initier le traitement. Même chose pour l'influenza. Il y a des adultes ou dans une résidence, il y a vraiment une poussée d'influenza, de grippe. Le pharmacien peut prescrire les médicaments qui sont nécessaires. On a probablement été les premiers au monde, M. Lavoie, à pouvoir prescrire le Paxlovid. Premier pharmacien au monde. D'accord. Et actuellement, aux États-Unis, on prend modèle et on se renseigne sur comment on a fait pour que les pharmaciens soient formés, préparés à bien faire la.
Bien, parlons de cet aspect-là, parce qu'il y a il y a un enjeu logistique, là. Imaginons une pharmacie ordinaire. En la blague, c'est qu'on y trouve aussi des médicaments. Le modèle d'affaires est un peu comme ça. Est-ce que ça va amener... est-ce que vos membres, là, qui sont aussi souvent des entrepreneurs, est-ce qu'ils vont devoir repenser l'aménagement de leur pharmacie? Ça prendra certainement plus de place, un lieu pour des consultations, des salles d'attente, un lieu pour pouvoir donner des services. Est-ce que ça va vous obliger à repenser l'aménagement? Est-ce qu'il va y avoir, dans le fond, un aménagement de pharmacie 2.0? Parce que là, vous allez faire plus que ce que vous faites maintenant.
Oui. Mais c'est déjà le cas, mais c'est la voie depuis déjà plusieurs années, là, une dizaine d'années au moins. Toutes les pharmacies doivent avoir un bureau de consultation. Et je dirais que les citoyens en général font bien la distinction entre la partie boutique et la partie officine dans, où ils vont consulter leur pharmacien. Pharmaciens qui peuvent consulter sans rendez-vous. C'est quand même quelque chose. On incite les gens quand ils prévoient que ça va être une longue consultation qu'ils veulent avoir avec le pharmacien à demander un rendez-vous. Mais le pharmacien est très, très disponible et il a vraiment augmenté ses compétences aussi. Donc, oui, il y a des pharmaciens que j'entends qui ont deux bureaux de consultation maintenant.
Le challenge donc, s'en vient, c'est ce qu'on comprend. Alors, ça
oui,
va être intéressant.
Mais il y a déjà eu une bonne adaptation, mais il reste que la pénurie de main-d'œuvre reste un peu plus problématique. Mais les pharmaciens ont vraiment été au rendez-vous jusqu'à maintenant.
Mais ça va être à suivre, Mme Lamarre.
Les gens vont découvrir.
Parfait.
Ils vont apprécier.
Je veux vous remercier beaucoup d'avoir pris le temps. Diane Lamarre, pharmacienne et professeure à la faculté de pharmacie de l'UDM. Merci beaucoup. Mon plaisir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Bonjour Marie.
Bonjour Guillaume.
Alors Marie, mon petit, hier, il y avait... C'est comme si quelqu'un avait lancé une grenade dans les corridors de l'Assemblée nationale avec ce rapport du protecteur du citoyen qui disait, mais là, et là je reprends un peu des termes, là, faute grave, copinage, ça sentait le scandale à plein nez. Puis là, on découvre ça tranquillement, puis ça là, tout ça sonne presque faux, là, où il y a un manque de synchronisme ou de diapason. Fais-nous le portrait de ce qui s'est passé essentiellement depuis 24 heures.
Là. Écoute, c'est toute une histoire, Guillaume. Tu sais, hier, on apprend que le protecteur du citoyen a déposé un rapport, puis là, je mets des guillemets sur rapport parce que finalement, c'est deux pages qui parlent d'un scandale d'utilisation d'un programme de 60 millions de dollars. Il parle effectivement de manquement grave, de favoritisme, de copinage. Mais là, il n'y a personne qui est nommé. Il n'y a pas de ministère qui est ciblé. Il n'y a pas de ministre non plus. Donc,
c'est la première fois, moi, que je voyais ce genre de, appelons ça, de dénonciation. J'imagine pas le vérificateur général du Québec dire « Je sors un rapport... »
Mais je vous dis pas c'est sur qui puis c'est
ministre
sur quoi.
X, à une époque, Y a fait quelque chose de très grave.
Ouais, donc là, évidemment, tu sais, on se le disait hier, Radio Colline s'est fait aller. Donc, rapidement, il y a des noms qui écoutent. Tous les noms de ministres, moi, j'en ai entendu plusieurs parce que là, évidemment, on soupçonnait...
Tout le monde a eu peur un peu.
Oui, puis ça laissait entendre que c'était un ministre peut-être actuel. Comme je veux dire, le rapport sort là. Je veux dire, donc tu dis ça s'est peut-être passé dans les quatre dernières années. Et finalement, on apprend que non, c'est une plainte qui a été déposée en février 2018, donc sous le mandat des libéraux. Et finalement, que c'est dans le ministère de l'Éducation lorsque Sébastien Proulx était ministre. Mais là, ce qui est... puis tu sais, je vais y aller avec prudence parce qu'il y a quelque chose, je trouve ça très particulier. Là, on a appris, on a vu Sébastien Proulx qui a réagi énormément hier, aujourd'hui, puis avec raison, où il est allé défendre son intégrité, il est allé défendre sa crédibilité, sa réputation en disant un instant, là, moi, les sommes, je les ai allouées, parce que là, on peut appeler ça quasiment le scandale des petits déjeuners, là. C'est des sommes qui ont été données pour soutenir des organismes comme Allo Prof.
C'est pas de l'argent à l'entreprise du beau-frère, ou on n'est pas dans cette logique-là. Là.
Ben, pas du tout, là. Là, ce qu'on voit, c'est des montants qui sont alloués à des organisations qui aident vraiment des jeunes, donc comme Allo Prof, de l'aide aux devoirs, secondaire en spectacle, club des petits déjeuners. Et c'est un budget vraiment discrétionnaire, donc sur lequel le ministre peut agir. Donc, moi, j'ai un profond malaise parce que le protecteur du citoyen hier est sorti très fort avec des mots très, très fort, qui laisse planer le doute sur la probité d'un ministre. Et aujourd'hui, on a vu là, le protecteur du citoyen finalement a émis un communiqué en disant, écoutez, je ne visais personne de spécifique, parce que là, il doit se rendre compte qu'il est directement ou indirectement a attaqué l'intégrité et la réputation d'un ministre, sort en disant, ben écoutez, je visais pas personne, je visais le ministère. Je sais même pas si maladroit est le bon mot, là, mais...
Il y a presque un moment où c'est un extraordinaire privilège, une responsabilité, je dirais, grandiose ou empreinte avec d'énormes pouvoirs doit venir les responsabilités puis de la retenue. C'est un officier du Parlement. C'est pas Jean-Guy là, qui raconte des rumeurs. C'est, en anglais, on dirait « the office hein, ». C'est même pas lui, c'est toute la symbolique de son bureau. Quand le vérificateur général parle, puis c'est un peu, quelque part, ce qui avait fait déraper l'UPAC, a commencé à faire des déclarations qu'on suivait mal. Comment il va? Il a probablement profondément affaibli l'autorité morale, pas la
de
sienne.
Son, de son institution.
De l'institution qui est le protecteur du citoyen. Là, j'imagine le vérificateur général dans son bureau qui doit se demander tous les jours pourquoi il y a un protecteur du citoyen alors que lui pourrait faire ce travail-là et se dire... Non, mais là, ça va faire les enfantillages. Là.
Mais ça soulève plein de questions. Tu as tout à fait raison sur pourquoi le protecteur du citoyen s'est occupé de ça. Comment ça se fait que ça a pris 5 ans, presque 5 ans, pour rendre un rapport là-dessus sur quelque chose qui n'a pas l'air d'être si compliqué que ça, entre toi et moi. Et puis, tu sais, je le mentionne, que ce soit Sébastien Proulx, que ce soit un libéral ou que ce soit n'importe qui, là, j'aurais maintenu le même commentaire. Nos institutions publiques, que ce soit le vérificateur général, que ce soit le protecteur du citoyen, sont là pour faire des enquêtes, sont là pour faire des vérifications. Et je m'attends, effectivement, comme je l'ai mentionné hier, à ce que, quand il y a des enjeux de malversation, quand il y a des enjeux justement de favoritisme, que ces institutions-là soient là pour pointer du doigt, pour mettre ça en lumière. Mais elles ont une responsabilité. C'est déjà difficile quand on est élu d'avoir une réputation qui est impeccable, d'avoir une intégrité qui est impeccable. Je trouve qu'une institution qui vient souligner, puis là, écoute, dans le rapport, ce que ça laisse entendre, c'est qu'il y avait des liens entre des membres du cabinet, puis du favoritisme. Puis écoute, tu sais, je veux dire, hier, là, c'était parti dans toutes les directions.
Oui,
au
moi,
niveau
j'ai
du
vu passer.
Scandale.
J'ai vu passer au moins 14 noms de ministres. Puis là, c'était est-ce que tu as été ministre dans ces années-là? Et là, bien, effectivement, tu fais partie de la liste des suspects potentiels, par définition. Puis là, bien, chacun a ses préférés, puis les agendas politiques des uns et des autres, d'ailleurs. Et ça a peut-être forcé. On finit par se mordre les joues. Des fois, on paye le prix de réagir trop tard, mais des fois, on paye beaucoup le prix de réagir trop tôt. Moi, je pense toujours... moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Gilles Lamontagne. C'est l'ancien ministre de la Défense, ancien maire de Québec, puis il me disait toujours, « Guillaume, oublie jamais que tu es toujours maître de ce que tu n'as pas dit. » Et dans ceux qui ont peut-être trop parlé, c'est Marc Tanguay qui ajoute à sa très mauvaise semaine, qui avait fait, puis là, tu nous l'expliqueras, une méga déclaration en criant au loup, la CAQ était terrible, le rapport le justifie. Il doit être content que sa semaine finisse, lui.
Ben écoute, ça n'a pas été une très, très bonne semaine pour la première semaine du chef intérimaire du PLQ, mais c'est sûr que Martin Gay, hier, est sorti, dès que ces rumeurs-là ou l'information est sortie, a demandé haut et fort au premier ministre de révéler qui était le ministre concerné et surtout de le congédier. Bon, je te fais remarquer que le Parti québécois a fait la même demande aussi, mais là, c'est sûr que ça a l'air un petit peu plus farfelu en plus de ça, parce que finalement, c'est comme si Marc Tanguay, là, apprend que c'est un membre de son de sa propre équipe qui était concerné. Donc, c'est sûr qu'il a réagi un petit peu vite sa gâchette. Je pense qu'il y avait des questions à se poser hier avant
de... Peut-être qu'il voulait surcompenser.
Ben, je pense qu'il a saisi exactement, tu sais, je pense qu'il est clairement dans tu sais, ça va pas bien pour le Parti libéral du Québec, là, ça, on le sait, là, je veux dire, c'est bourde après bourde, tuile après tuile, puis je pense qu'hier, c'était une façon de saisir une opportunité, de dire je prends le singe qu'on a sur l'épaule, puis je l'envoie, on dit souvent ça en politique, tu sais, hein, puis je l'envoie sur l'épaule de l'autre, donc je pense que pour lui, c'était une opportunité de mettre ça de l'autre côté, mais tu sais, juste pour finir là-dessus, Guillaume, moi, là, je pense qu'il va falloir aller beaucoup plus loin sur ce qui s'est passé. Puis je pense que le protecteur du citoyen a des comptes à rendre et il faut que ça aille plus loin que le communiqué qu'il a fait parce que, tu sais, si un ministre ne peut plus faire ce genre d'intervention-là, ne peut plus prendre des décisions, ne peut plus trouver des solutions lorsqu'il y a certains enjeux spécifiques, à quoi sert-il dans son ministère? Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu comme ministre à des situations qui sont particulières des fois, puis je pense à un exemple qui s'est passé. Moi, juste avant que je devienne ministre, il y a le théâtre de Petite-Vallée qui est parti en fumée.
Oui.
Et donc, c'était tout le festival de la chanson de la Petite-Vallée qui était mis en cause. Il a fallu qu'on se débrouille pour trouver des subventions pour soutenir des chapiteaux. Mais des fois, il faut que tu fasses preuve. Tu sais, je veux dire, tout est normé dans des ministères. Il y a des programmes, mais il y a des endroits où on a une capacité, justement, de discrétionnaire communiste puis de pouvoir dire, ben il y a un enjeu, j'y trouve une solution, je réagis. Et si c'est ça qui est dénoncé par le protecteur du citoyen, on a un problème, là.
On va voir. Peut-être que je disais que le gouvernement était bien chanceux que l'Assemblée ne siège pas. Peut-être que j'aimerais ça, moi, voir le protecteur du citoyen présenté devant la commission des institutions de l'Assemblée nationale ou la commission des affaires, voyons, de l'administration publique, puis de dire, expliquez-nous votre démarche, parce que au-delà du cas précis, là, il y a une question sur comment est-ce que cette institution-là, officière du Parlement, à gérer ça. Marie Montpetit, mon Dieu, plein de choses à venir. On va se reparler lundi. Voyons voir pour la suite. Merci
à
beaucoup.
À lundi. Bonne fin de semaine.
Passionné d'art urbain, de boutons de manchette et de véloconomie, Guillaume Lavoie n'a pas fini de vous surprendre.
Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté.
Bonjour Luc.
Ouais, bonjour Guillaume.
Bon, Luc, il s'est passé quelque chose d'important encore aux États-Unis, mais là, c'est la dame de fer avec le cœur à gauche de la politique américaine qui dit qu'elle quitte la scène.
Effectivement. Donc, belle présentation en passant. C'est bien de la présenter comme ça, je pense. Écoute, Nancy Pelosi, d'abord, comme personnage, comme individu, elle a de très, très nombreuses qualités. Puis elle l'a mentionné, d'ailleurs, en débutant son allocution, quand elle annonce qu'elle ne reviendra pas comme chef, finalement, comme dirigeante de la faction démocrate à la Chambre. C'est pas quelqu'un qui était prédestiné à la politique. Donc, ça coule dans les veines, dans la famille, ça faisait partie de son entourage, de son vécu, mais elle avait un profond respect pour les institutions et le hasard, en quelque sorte, puis bien sûr, ensuite, sa propre volonté, font en sorte qu'on va la retrouver, et pas juste comme figurante, bien entendu, comme chef de file des démocrates pendant des années. Mais c'est quelqu'un, d'abord, dont on ne peut pas douter de l'attachement aux institutions américaines, à la démocratie américaine. C'est quelque chose qui l'a bien servi, d'ailleurs, dans son combat avec le président, parce que c'était vraiment un combat pendant les années de la présidence Trump. Tu disais tout à l'heure, hein, la dame de fer, mais avec un cœur sur la gauche. Moi, j'ai bien hâte de voir, à partir de maintenant, elle l'a fait de manière élégante hier, mais après avoir retardé ce départ-là un certain temps, parce que chez les démocrates, comme on le sait maintenant chez les républicains, les réunions de famille ne sont pas toujours agréables.
Non,
ça ne se termine pas toujours très bien.
Non, le terme guerre civile serait probablement trop fort, mais il y a d'abord plein de gens. Devenir leader des démocrates à la Chambre et speaker, tu n'arrives pas là juste parce que tu es gentil. Il faut que tu aies des habiletés politiques passablement aiguisées, autant que les coudes au moins. Mais dans la suite, là, je voyais ça se profiler à l'horizon. Il y a une véritable bataille sur le leadership du groupe démocrate, à savoir quelle sorte de parti démocrate allons-nous être, quel genre d'électeurs on veut représenter. Parle-nous des différents camps et comment est-ce que ça grenouille ou ça manœuvre, le présentement.
Ben voilà, d'abord, pour Mme Pelosi, ce qu'on cherche, on est content quelque part chez les démocrates, puis j'ai envie de te dire, comme observateur de la scène politique, ça fait un certain temps déjà qu'on dit qu'il faut qu'il y ait une relève de la garde à Washington. On a, puis c'est pas faire de l'âgisme que de dire les quinquagénaires, les quadragénaires sont moins bien représentés à Washington. On a des septuagénaires ou des octogénaires partout. L'expérience, c'est bien, mais est-ce qu'on pouvait avoir une relève de la garde ou avoir au moins une représentation?
Oui, parce que Luc, là, entre Joe Biden, ça, Donald Trump, ouais, Mitch McConnell, Nancy Pelosi,
Chuck Schumer,
ils ont tous, on est dans le troisième âge, presque le quatrième âge, là. Alors, il y avait comme une seule génération avec toutes les clés du pouvoir, là.
Voilà, c'est là où j'insiste pour dire, c'est pas de l'âgisme, c'est de dire qu'on est plus représentatif maintenant de la grande majorité des électeurs aux États-Unis. Donc, en même temps, quand Mme Pelosi dit « je m'en vais », on perd deux choses. Un, une intelligence politique hors du commun. Donc, elle avait un flair politique et surtout une minutie dans le travail qu'on ne retrouve pas forcément chez toutes les femmes et chez tous les hommes politiques. Donc, on perd ça. Puis, en même temps, ce que tu évoquais comme étant la dame de fer, c'est qui est capable, au moment où on se parle chez les démocrates, de forcer les progressistes et les plus modérés, puis même au plan économique, des démocrates un peu plus conservateurs, ceux qu'on a déjà appelés les « blue dogs » dans le jargon, qui est en mesure d'asseoir tous ces gens-là pour dire « on met le couvercle sur la marmite, on s'en va en élection, puis tout le monde tire du même côté ». En passant, la faction progressiste, elle a gagné des nouveaux joueurs. Peut-être que nos auditeurs se rappellent qu'il y avait c'était surtout des femmes, des représentantes qu'on appelait les membres du squad. Alexandra Ocasio-Cortez, Rachida Tlaib, par exemple, elles sont toujours là et elles sont passées de 4 au départ à 8 depuis les élections de mi-mandat. Ces gens-là sont déçus de M. Biden. On le dit parfois à demi-mot, on évite les chicanes sur la scène publique. Ouais. Et ce sont des personnes, je pense entre autres à Mme Ocasio-Cortez, qui avait développé une assez bonne relation avec Mme Pelosi. Alors, qui est en mesure maintenant d'assurer ça? Le nom qui circule le plus à Washington depuis hier, c'est Hakeem Jeffries, qui est un représentant
de
actuellement.
New York. C'est ça, c'est celui qui vient de New York.
Voilà, de New York. Voilà, on est Bronx, Brooklyn, mais si on regarde son historique de vie, puis si on regarde la représentation à Washington, donc c'est quelqu'un qui est issu de New York. C'est un de ceux pour lesquels on a le plus de respect, puis un de ceux qui serait capable de naviguer dans les eaux troubles entre progressistes et, disons, plus centristes, dans la mesure où il y a des centristes chez les démocrates.
Oui, parce que ce groupe-là va devoir être incroyablement discipliné. Je pense seulement aux 2 ans qui s'en viennent, parce que du côté républicain, il y a des coucous là-dedans, là. Il y a des fous, là. Et on imagine que la majorité est tellement petite qu'il n'est pas impossible que McCarthy, du côté républicain, ait de la misère à avoir tous ses votes en ligne, en rang d'oignon. Et là, certains votes pourraient être gagnés par les démocrates si eux sont capables de tenir la ligne, d'être plus disciplinés que les... En fait, de se comporter sur comme étaient perçus avant les républicains. Alors, d'être responsable, de penser que...
Alors, écoute, fois,
c'est mieux d'avoir de gagner que d'avoir raison, là.
Écoute, mine de rien, puis on a l'impression parfois de se répéter, mais pour tout ce qui est analyste ou commentateur sur la scène politique américaine, il se joue gros ces jours-ci, là, depuis les élections de mi-mandat. M. Trump revient à la charge. On s'entend pour dire qu'il ne fait plus l'unanimité. Restons comme ça. On risque d'avoir une bataille pour qui sera le chevalier de la cause républicaine aux élections présidentielles. À la Chambre des représentants, M. McCarthy t'évoquait des coucous. Ils sont près de 30 ou 40 chez les républicains à être ce qu'on appelait des MAGA, des partisans purs et durs de Donald Trump. Ceux de qui on n'attend pas toujours les solutions les plus stratégiques ou les plus gagnantes, restons polis comme ça à court terme.
Et qui vont forcer, c'est ça, le caucus républicain, des fois, à être incapable de bouger ou ils vont les forcer sur une droite populiste qui devient, à certains égards, infréquentable.
Voilà. Puis du côté démocrate, ben, ce qu'il faudra répéter comme message, en imaginant que c'est Hakeem Jeffries qui est là, c'est écoutez, pour l'horizon 2024, les choses regardent pas mal. Que M. Biden revienne ou pas, on a vu aux élections de mi-mandat qu'on est capable de l'emporter. Si vous gardez un message plus pragmatique, plus terre-à-terre, si on s'assure de jouer en équipe, la victoire est à notre portée. Ce qui a été un problème du Parti démocrate souvent, c'est qu'on va, dans certains milieux à tout le moins, faire passer les guerres idéologiques avant la victoire sur le terrain ou avant le côté plus pragmatique. Mais si on regarde la division à la fois des républicains à la Chambre et cette potentielle guerre ou cet affrontement qu'il y aura pour le candidat à la présidentielle 2024, si je suis un démocrate et que je regarde un peu vers l'avant, il y a plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles, disons, au moment où on se parle.
Alors, ça va être fascinant, Luc, la liberté, parce que là, on a deux partis qui vivent une mini-crise d'identité et ils devront chacun se poser la question « En quoi je crois? Qui sont mes électeurs? Et est-ce que je suis prêt à aller chercher là où ils sont plutôt que d'attendre qu'ils voient la lumière et qu'ils se dirigent vers moi? » Luc, la liberté, plein de choses fascinantes. On regarde ça pendant la fin de semaine. On se reparle lundi. Au plaisir.
Parfait. Bye, Guillaume. Bonne fin de semaine.
Pour lui, les plus petits détails comptent. La perfection n'est pas ce monde, mais il y a quand même Guillaume Lavoie.
Vous avez vu cette semaine ce qui est presque le jour de la marmotte dans la Fédération canadienne, c'est-à-dire qu'il y a des besoins de santé dans les provinces, le fédéral a de l'argent Et là, on demande de l'argent au fédéral. Le fédéral dit, ben peut-être qu'il faudrait mettre des conditions. On rejoue encore dans ce film-là. Et peut-être qu'il est important de regarder qu'est-ce qui est au cœur de ce problème-là et d'aller relire la Constitution et se demander qui devrait être responsable de quoi. Et il y a quelqu'un qui s'est intéressé à ça d'un peu plus près et quelqu'un qui a suivi ça pendant de nombreuses années. André Pratt, ancien sénateur et journaliste, qui a écrit récemment une lettre ouverte justement sur ce point-là. Bonjour, M. Pratt.
Bonjour, Guillaume.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, expliquez-nous un peu votre compréhension de l'enjeu et pourquoi cette sortie, précisément à ce moment-ci?
En fait, ça fait déjà quelques années que les provinces réclament davantage de fonds du gouvernement fédéral. Les provinces prétendent, et avec raison, je pense, que la proportion des dépenses de santé payées par le gouvernement fédéral n'a pas cessé de diminuer au fil des années. Même le gouvernement fédéral concède ça, c'est-à-dire que le fédéral dit « oui, je devrais mettre plus d'argent en santé, transférer de l'argent aux provinces pour qu'elles améliorent les choses en santé », mais le gouvernement Trudeau met des conditions. Et en fait, essentiellement, ce qu'il dit, c'est « je veux m'assurer que l'argent est dépensé aux bons endroits, dans les bons domaines, les bons secteurs, et donc je veux pouvoir avoir des données financières et autres pour voir si l'argent que je dépense est bien dépensé. » Et c'est là que ça cloche parce que les provinces disent « mais écoutez, c'est nous qui nous occupons de la santé, le fédéral ne connaît rien là-dedans, c'est pas à lui à nous dicter comment faire, comment tenter d'améliorer les choses dans le réseau de la santé. » Et c'est là que les négociations bloquent.
Mais ils ont un peu raison, les provinces, parce que d'abord, pour être capable d'interpréter les données, encore faut-il avoir une compétence minimale. Et là, mon point ici, c'est pas qu'Ottawa sont des incompétents, c'est pas ça. Mais il n'y a personne au fédéral qui opère un système de santé de la taille des provinces, là. Est-ce que, j'ai dit un peu plus tôt cette semaine, est-ce que ça se peut qu'il manque de fédéralistes à Ottawa? Est-ce que c'est ça notre problème?
Mais il y a beaucoup de pression politique sur le gouvernement du Canada, y compris par des associations médicales nationales, l'Association des médecins du Canada, l'Association des infirmières du Canada et d'autres, qui voudraient, qui rêvent un peu d'un système de santé national. Un système de santé où ça se ressemblerait beaucoup d'une province à l'autre.
Oui, mais les rêves éveillés du NPD ou de la gauche du Parti libéral, ça n'arrivera jamais. Ces associations-là, je les imagine. J'ai eu l'Association médicale canadienne et j'étais incapable de réconcilier leur discours avec ce que j'imagine les réflexes premiers des fédérations de médecins au Québec. Je suis pas sûr, moi, que les fédérations provinciales seraient d'accord que des médecins ou des infirmières de d'autres provinces débarquent dans leur champ de compétences et de facturation comme ça, là. Alors, qui mène vraiment ce débat-là?
Oui, mais de toute façon, la réalité dans la Fédération canadienne, c'est que ce sont les provinces en grande partie qui s'occupent de la gestion du système de santé, surtout les hôpitaux, les médecins, les infirmières, etc. Ça, c'est la réalité. Et le gouvernement fédéral n'y peut rien, c'est la Constitution qui dit ça et c'est la pratique établie. Donc, là, ce que le gouvernement fédéral voudrait pouvoir faire, c'est dire, regardez, j'ai dépensé, disons, 10 milliards de plus, et je suis capable de démontrer que ça a diminué l'attente dans les salles d'urgence qui est passée de tant d'heures à tant d'heures. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent avoir le crédit politique.
Ben c'est ça. Ça a plus l'air de « donnez-moi des données pour que je puisse construire ma campagne électorale sur cette base-là ». Parce qu'au départ, c'est la thèse du gouvernement fédéral, du gouvernement Trudeau, de dire que c'est parce que les provinces ne veulent pas partager d'informations. C'est un peu mince, là. À moins que je me trompe, puis là, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est un film dans lequel on a joué à l'époque où Lucien Bouchard était premier ministre du Québec, avec, j'oublie l'acronyme exact, mais l'Institut canadien des statistiques en santé. Ça existe déjà, cette chose-là.
Oui, mais en fait, ça existe. Ce problème-là existe depuis que le gouvernement du Canada, dans les années 80, 1980, a adopté la loi canadienne sur la santé qui impose des conditions aux provinces sur comment gérer le système de santé. Il faut que ce soit un système public, etc.
Mais ce sont des conditions. Pardonnez-moi, ce sont des conditions incroyablement générales. On ne dit pas, le fédéral ne disait pas à cette époque-là, mettez-moi-en un peu dans les salles d'urgence. Ici, réparez un peu plus de genoux. Des choses pour lesquelles ils n'ont aucune connaissance ou compétence, là.
Et de toute façon, les provinces s'en vont vers la publication de davantage de données. La pandémie a montré qu'on a un besoin d'avoir des meilleures données. Au Québec, le ministre Christian Dubé s'est engagé Il s'est déjà commencé. Il y a un tableau de bord dans lequel il y a beaucoup de données sur Internet. Il va y en avoir plus. Et M. Dubé a dit publiquement que toutes ces données-là seraient bien, et d'autres seraient bien sûr disponibles pour l'Institut canadien d'information sur la santé. Mais ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils ne veulent pas, M. Dubé, ce que les autres provinces ne veulent pas, c'est d'être obligé d'envoyer des données dans une agence fédérale quelconque, probablement un étage de plus de bureaucratie, et que là, le fédéral dirait « Ah, à une province, non, là, c'est pas comme ça qu'on gère une urgence, vous devriez faire ça. » Et ça, les provinces, avec raison. Mais moi, j'ai toujours soutenu que dans une fédération, les provinces et le fédéral devraient d'abord s'occuper de bien gérer ce qui est dans leur juridiction. Alors, le gouvernement fédéral n'a pas de leçon à donner aux provinces à cet égard-là. Ils ont beaucoup de problèmes à gérer leur propre juridiction, que ce soit le passeport ou ArriveCan ou d'autres choses du genre. Ils devraient se concentrer là-dessus.
Ça, ou de payer notre contribution à l'OTAN, ce sera un peu moins gênant. Dites-nous, il semble manquer d'esprit fédéral dans l'ensemble canadien, et particulièrement à Ottawa, mais comment vous voyez la chose se jouer politiquement? Est-ce que le Québec pourrait gagner, pas au nom du Québec, mais au nom de cette idée que ce sont les provinces qui sont responsables de l'administration des services de santé? Est-ce que le front provincial va tenir? Est-ce que le Conseil de la Fédération, qui a déjà été un instrument créé, notamment pour coordonner davantage ces actions-là, ou sinon, le fédéral va réussir, un peu comme d'habitude, diviser pour mieux régner? Là. Comment vous voyez la chose se jouer dans les prochaines semaines?
Oui, je crains que le gouvernement fédéral tente de diviser les provinces à nouveau et probablement qu'il y parvienne parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Mais je pense qu'il y a de la place pour un compromis intelligent. Il existe déjà cet institut dont on parlait, qui est une sorte de Statistique Canada, mais juste pour la santé. Ça existe déjà. Ils font de l'avis général un bon travail. Et tout ce qu'on aurait besoin, c'est que les provinces s'engagent à fournir plus de données à l'Institut canadien sur la santé. Le Québec a déjà retenu toutes ces données. Il ne voulait pas les donner. Là, ça a changé. Alors, je pense qu'on pourrait trouver un compromis là. Il faut quand même dire que les provinces demandent une somme absolument faramineuse. Hein. Ils demandent au gouvernement fédéral au moins 28 milliards de plus par année en santé. Ce qui est énorme, c'est une somme qui est un peu déraisonnable. Donc, de part et d'autre, il y a de la place sans doute pour un compromis s'il y a une volonté politique réelle. Mais ma crainte, c'est que le gouvernement cherche plutôt à faire des ententes à la pièce avec les différentes provinces et peut-être isoler le Québec comme c'est déjà arrivé dans le passé.
Oui. André Pratt, peut-être qu'il devrait y avoir une lecture obligatoire à Ottawa. Ça peut sembler un peu basique, mais de commencer par la lecture de la Constitution et des articles 91-92. Mais est-ce que, à part, et ça va, il y a un risque que ça devienne une bataille Québec-Ottawa, est-ce que ce réflexe fédéral existe aussi dans d'autres provinces, selon vous, rapidement?
Oui, oui, il y a d'autres provinces qui sont qui ont la même position que le Québec là-dessus. Donc, moi, je pense qu'il y aura une résistance assez forte. Mais le gouvernement fédéral, qu'est-ce que vous voulez, a le gros bout du bâton quand même, hein, parce que c'est lui qui a l'argent. Et on sait que même s'il y a d'autres choses que l'argent qui compte en santé, l'argent est quand même très important.
Oui, le pouvoir de dépenser reste ce virus d'affaiblissement de l'esprit fédéral, toujours. André Pratt, ancien sénateur et journaliste, merci beaucoup d'avoir été avec nous puis nous aider à voir plus clair là, dans cet imbroglio, un autre sur le financement de la santé au Canada.
Merci Guillaume, bonne fin de semaine à tout le monde.
Au plaisir.
Avec Guillaume Lavoie, pas de détour. Seulement un lien direct vers des solutions logiques. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
14h30 précise, moment d'aller joindre Guillaume Lavoie dans les studios de Cube. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marianne.
Parlons de la Coupe du monde de soccer au Qatar. Ça commence dimanche et on a appris dans les dernières heures que la vente de bière serait finalement interdite autour des stades. Dans un premier temps, on avait, mis certains paramètres, mais là, interdit autour des stades, dans le stade aussi. Quand t'es le commanditaire Budweiser, Guillaume, à deux jours du début de l'événement, tu dois pas la trouver très drôle, là.
C'est pas génial pour le commanditaire, mais l'intérêt premier du commanditaire, là, imaginons Budweiser dans le cas précis, c'est pas combien de litres de bière vont être vendus sur les lieux de l'événement, c'est beaucoup plus l'association commerciale avec un événement dont les cotes d'écoute à la dernière réunion de la FIFA étaient de 3,5 milliards. Et les attentes incroyable. Pour cette fois-ci, c'est 5 milliards. Alors, ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'on puisse voir le logo et qu'il puisse permettre de la vente de bière bien au-delà des environs du stade, bien au-delà des frontières du Qatar. Alors ça, c'est, je dirais que c'est quelque chose pour lequel l'impact est pas gigantesque pour le commanditaire. Là où je pense il y aura une conséquence. Évidemment, pourquoi est-ce qu'un pays comme le Qatar, qui n'est pas exactement le champion des droits humains, essaie d'avoir des événements internationaux comme ça? C'est pour se montrer au monde, c'est pour s'inscrire dans la cour des grands, pour dire à l'ensemble des joueurs, venez chez moi, je veux faire des affaires. Ce qui est arrivé ici, c'est qu'on décide unilatéralement, et il y a des frais à ça, de réécrire un morceau de contrat, de le faire à quelques jours d'avis. Et là, ça envoie le message, quand je fais des affaires avec le gouvernement du Qatar, c'est pas exactement faire des affaires comme aux États-Unis, ou au Canada, ou au Québec, ou en France. J'ai ici un gouvernement qui peut réécrire un bout de contrat juste parce qu'il le désire, comme ça. Alors ça envoie peut-être exactement le contraire du message qu'aurait souhaité inscrire le Qatar dans cette Coupe du monde.
Ouais, c'est intéressant. Il y a aussi toute la question du boycott diplomatique. On le sait, le Bloc et le NPD voudraient que le Canada envoie un message fort, mais on comprend que ça pourrait être vu comme un affront aussi par le Qatar. Donc, il y a toute une question de diplomatie à travers ça, là.
C'est toujours très difficile. D'abord, ces décisions-là doivent se prendre bien avant la veille du déclenchement de l'événement. Alors là, là-dessus, il faut qu'on se donne, dans le fond, une charte ou des critères. On ne peut pas décider un peu à la gueule du client. Ici, je boycotte. Là, je ne le peux pas. On est allé en Chine. Ouais. Est-ce qu'on se permettrait d'aller au Qatar? Si je vais au Qatar, est-ce que j'irai en Arabie Saoudite, la Corée du Nord? Quels sont les critères pour dire ici, c'est oui et ici, c'est non? Et c'est normal qu'il y ait cette tension profonde. On pourrait boycotter et dire « vous n'existez pas ». S'il y a juste le Canada qui le fait, je ne suis pas certain de l'impact final. Ou encore de dire « on va essayer de vous engager, mais comme on le fait là présentement, vous allez entendre parler du Qatar et de l'enjeu des droits humains et de son programme qui est presque de l'esclavage moderne, parce qu'on a énormément de travailleurs étrangers dont le permis de sortie du pays appartient à l'employeur. On va mettre ça sur la table et par cet engagement-là, ça créera une pression supplémentaire pour faire bouger l'aiguille. Mais évidemment que se taire, c'est la dernière chose. Et là-dessus, que le Qatar fasse ce genre d'événement-là et exige en plus que l'on ne dise rien, il y a peut-être des gens qui s'imaginent que le Qatar pense ça, mais ça fait longtemps qu'ils jouent dans ce film-là et ils s'attendent, bien sûr, ça vient avec le territoire, comme on dit.
On voit certains pays, bon, des athlètes qui, pour montrer justement leur attachement aux valeurs, à l'ouverture, par exemple, par rapport aux communautés LGBTQ+, et tout ça, vont porter brassards arc-en-ciel et tout ça. Donc, il y a quand même un mouvement qui s'inscrit tout en étant présent, là.
Et c'est là où c'est une question de degré, c'est toujours plus difficile. Il y aurait, et on l'imagine toujours, par une participation gentille, et la seule alternative à celle-là, c'est de ne pas y aller et de boycotter. Alors, est-ce que je peux y aller et dire, je vais vous parler de ce que j'ai vu là-bas? Il y a des grandes choses. Le Qatar est un petit pays de rien qui est devenu un joueur international gigantesque et massivement important parce que c'est un producteur de gaz naturel majeur. Mais en même temps, il a une structure de gouvernance, une structure de droits humains qui l'amène dans un autre siècle. Et si vous regardez, par exemple, les Émirats arabes unis qui sont à côté, ils sont probablement beaucoup plus en avance. Alors, dans cette péninsule, le Qatar n'est pas le dernier des derniers, mais certainement pas dans la chaise du leader. Alors, je pense que ça vaut la peine d'engager davantage. Et s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de pression. Et puis là-dessus, bien, s'il faut s'il faut dire que le Qatar, ça ne fonctionne pas, la dernière fois, c'était en Russie. Et je comprends que la Russie, maintenant, c'est plus problématique, mais ce n'était pas exactement un exemple de droits humains il y a 4 ans, là.
Merci beaucoup, Guillaume. Bonne fin de semaine.
Au plaisir. C'est tout pour nous à Cube Radio. Merci d'avoir été à l'antenne. Salutations à Charlie Marchand et Marianne Bessette pour leur aide pour cette émission. C'est Guillaume Lavoie qui vous dit au plaisir. À lundi.
Cube Radio.